chers amis qui nous visitent. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous avoir laissé sa parole dans notre langue et aussi de nous avoir donné son Esprit Saint pour comprendre ce qu'il veut que nous comprenions. Nous sommes aujourd'hui dans le 5e chapitre de Daniel et nous sommes dans cette partie narrative du livre de Daniel qui comprend les 6 premiers chapitres. Donc, partie narrative, les 6 autres, c'est plutôt une partie prophétique. Et donc, on a le parcours depuis un certain temps. On a vu Daniel arriver à Babylone, adolescent. Daniel qui est résolu dans son cœur à ne pas se souiller avec les mets du roi. Et puis, on voit que Dieu lui fait grâce, lui et ses compagnons. Il accorde à Daniel un don d'interprétation extraordinaire. Et puis plus tard, dans le chapitre 2, on voit que Nebuchadnezzar est troublé par un songe, un rêve qu'il a fait. Et dans ce songe, il voyait une grande statue. Et c'est encore Daniel qui va lui donner l'explication de ce rêve. Plus loin, dans le chapitre 3, les 3 compagnons de Daniel sont confrontés à un problème d'idolâtrie. On veut les pousser à adorer une statue d'or que Nebuchadnezzar a fait ériger. Ils ne plient pas le genou, ils n'adorent pas. Ils sont jetés dans la fournaise. Mais là encore, le Seigneur est avec eux. Il y a un 4e homme que Nebuchadnezzar peut voir dans la fournaise chauffée plusieurs fois, 7 fois plus que d'habitude. Et voilà, Dieu les accompagne et Nebuchadnezzar reconnaît que Dieu est le Dieu est un grand Dieu. Et enfin, il a ce songe que nous avons vu au 4e chapitre où il voit cette fois-ci un grand arbre et dont on coupe une bonne partie du tronc et des racines sont restées en terre et sept ans passent, cet arbre est arrosé par la pluie et Daniel lui dit mais c'est toi qui vas être humilié pour que tu reconnaisses que Dieu donne toutes choses. Et effectivement Nebuchadnezzar va devenir comme un animal, il va être arrosé par la rosée du ciel, il va manger des herbes comme les animaux et sept ans après, il va reconnaître que Dieu est celui qui donne toutes choses. Et là, on va arriver à une vraie conversion. Et maintenant, nous sommes dans le chapitre 5, où ce n'est plus Nebuchadnezzar, mais Belshazzar qui est là, un des derniers rois de Babylone. Et nous lisons au chapitre 5 à partir du verset 1. Donc, j'ai donné à cette méditation le titre « L'écriture sur la muraille ». Et dans le premier temps, nous allons voir l'apparition de cette écriture sur la muraille, des versets 1 à 9. Dans un deuxième temps, nous verrons l'explication de cette écriture sur la muraille par Daniel, versets 10 à 29. Et enfin, l'accomplissement de l'écriture sur la muraille, versets 30 à 31. Commençons notre lecture au verset 1 du chapitre 5 de Daniel. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apportait les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voilà un récit très édifiant, et édifiant à bien des égards. Donc, voyons cette première partie, l'apparition de l'écriture sur le mur, les versets 1 à 9. Le texte nous dit un peu dans quelles conditions, dans quelles circonstances va apparaître cette écriture sur la muraille. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ, soit 23 ans après la mort de Nebuchadnezzar. Belshazzar, qui signifie « Bel protège le roi », était le fils du dernier roi de Babylone, Nabonide. Belshazzar assure la cogérance avec son père Nabonide de 533 à 539. À ce moment-là, Babylone est assiégée par l'armée perse. Que fait Belshazzar? Que fait le co-régent? Eh bien, le verset 1 nous donne la réponse et nous dit « Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. » Belshazzar estimait que là, sa cité était imprenable. Il est vrai qu'en 538, Babylone était au fait de sa gloire. Les archives de l'Antiquité la décrivent comme une cité extraordinaire. Babylone était une ville immense. Les murailles étaient hautes de 100 mètres de large, étaient hautes de 100 mètres et larges de 30 mètres. Elles étaient surmontées de 250 tours de guet. 6 chars pouvaient y défiler de front. De plus, les remparts plongeaient dans les eaux de l'Euphrate, dont un des bras traversait la ville. Qui oserait s'attaquer à une telle forteresse? Quelle armée viendrait à bout de ces murailles massives? De plus, dans la ville, il y avait des réserves pour 20 ans. Aussi, le roi Belshazzar pensait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Lui et ses grands du royaume pouvaient poursuivre l'esprit tranquille, le programme des festivités. Et on sait qu'à cette époque, les festivités pouvaient durer de nombreuses semaines. 180 jours, par exemple, dans le livre d'Esther, au chapitre 1 et au verset 4. D'une certaine manière, ce banquet donné par le roi Belshazzar représente déjà un certain mépris de la puissance des hommes. Est-ce qu'on fait la fête quand on a sa cité assiégée? Mais il est tellement fier de sa puissance, il pense qu'il est tellement au-dessus de tout le monde, il pense que sa cité est si bien protégée que c'est pas la peine, il se moque un peu de la puissance des hommes. Et cela ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas seulement des hommes qui se moquent, mais ils se moquent aussi de Dieu. Et nous le voyons au verset 2, où nous disons que Belshazzar, quand il eut goûté au vin, et vous savez, la boisson et l'alcool, quand l'alcool commence à faire ses effets, on perd tout bon sens. Alors, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Boire dans les vases, dans ce contexte, était profaner ces vases. C'était un affront à l'Éternel. Et on voit là que dès que l'alcool commence à faire ses effets, le roi Belshazzar abandonne toute retenue et toute décence. Il va profaner les ustensiles du temple que son père avait ramenés de Jérusalem jusqu'à Babylone. Et le roi et ses convives vont s'enivrer en buvant dans les coupes qui étaient autrefois destinées au culte de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Cette pratique est un véritable mépris du Dieu trois fois saint. Et au verset 4, nous lisons, « Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. » Frères et sœurs, chers amis, nous pouvons imaginer les rires, l'écho des réjouissances, comme dans l'épisode du veau d'or, dans Exode 32. « La débauche est à son comble. » Des chants s'élèvent à la gloire des faux dieux. Le péché s'étale sans honte. L'impiété ne connaît plus de limite. Et c'est un avertissement pour nous ne pas prendre les choses de Dieu à la légère. Ni la scène, ni autre chose. Parce que ça commence petit, mais ça peut déraper. Voilà. Et donc, Dieu ne reste pas insensible à ça. Et on voit tout de suite qu'il réagit. Et on voit l'apparition des doigts d'une main, au verset 5 à 9. C'est alors que soudain, disent certaines versions, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Ce roi qui était rempli d'arrogance. Il faut bien avoir à l'esprit que ce n'était pas une petite fête. C'était de la débauche, il y avait des orgies. Ah, et le vin aidant, eh bien, ces gens se lâchaient. Eh bien, ce roi rempli d'arrogance et d'impiété est maintenant tout tremblant. Il voit des doigts qui écrivent sur la muraille. Il se rend compte que quelque chose ne va pas, qu'il a dépassé les bornes. Dieu a pris note de toutes ses pensées, de toutes ses paroles, de toutes ses actions. Il va maintenant lui demander des comptes. Et donc, le roi est troublé et il va demander toujours au même. On a vu déjà ça plusieurs fois avant. Les Chaldéens, les astrologues, les spécialistes, ceux qui savent interpréter les choses un peu qui sortent de l'ordinaire, il va faire encore appel à eux. Et il va promettre une récompense à celui qui pourra expliquer ce qui se passe. Et on lit au verset 7, le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les Chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages, tu vois, entrèrent. Il y a une façon de gagner de l'argent. Même certains vont pouvoir peut-être dire n'importe quoi du moment qu'on gagne les sous. Ils vont venir, ils viennent tous, malheureusement. Voilà. Mais ils ne purent pas lire l'écriture, même pas la lire. Et en donner au roi l'explication. Sur quoi, verset 9, le roi Belshazzar fut très effrayé et changea de couleur et ses grands furent consternés. Sa frayeur, son angoisse redoubla. Alors, on nous a dit que nous avons lu qu'il va convoquer les spécialistes, mais aucune personne ne peut ni lire l'écriture, ni lui en donner l'explication. La récompense était grande. Celui qui aurait pu interpréter l'écriture aurait été revêtu de pourpre. Et le pourpre, c'était une façon de dire qu'on serait revêtu, investi de l'autorité royale. On lit ça, on voit ça aussi dans Esther où la Mardoché est revêtue de ce manteau de pourpre. Et puis il est dit aussi qu'il aurait la troisième place du royaume. Pourquoi la troisième place? Parce qu'en fait, Belshazzar n'était pas le roi, il était seulement co-régent. Son père, Nabonide, était le roi en fait. Et donc Nabonide le roi, le co-régent en deuxième position, et le troisième aurait été celui qui aurait interprété ces écritures. Et là, Daniel, qui n'avait pas été convoqué, eh bien on va le convoquer. Et c'est la reine qui rappelle à Belshazzar le ministère de Daniel au temps de Nebuchadnezzar. Au verset 10 à 12, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Au roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. La reine donc est obligée de rappeler, elle n'était pas là, pourtant il y avait les grands, tous les grands du royaume. On sait que Daniel aussi avait été élevé à des fonctions prestigieuses au temps de Nebuchadnezzar. Il n'était pas là non plus. Il a été mis de côté pendant le temps de règne de Belshazzar. Et donc, cette reine d'ailleurs n'est pas l'épouse de Belshazzar, parce que les femmes, nous a dit au verset 5, que toutes les femmes et ses concubines étaient là, au verset 3. Donc, probablement, la reine c'était soit la mère, soit la grand-mère de Belshazzar. La reine, justement, semble être la seule personne à se souvenir de Daniel, à se souvenir que Daniel avait cette capacité d'interpréter les songes et les rêves. Et pourtant, Daniel était connu de tous. Au chapitre 2, on a vu qu'il a été le seul à pouvoir expliquer le songe du roi. Un songe que aucun spécialiste ne pouvait même raconter. Eh bien, il a été le seul non seulement à dire « voici le songe » et à en donner l'explication. Au chapitre 4 aussi, on voit que Daniel a pu expliquer au roi cette grande statue-là, qu'est-ce qu'elle signifiait. Il a pu expliquer les choses et ses explications se sont accomplies à la lettre. Et dans la communauté juive, Daniel était aussi connu pour ses qualités spirituelles. Et on voit ça dans Ézéchiel au chapitre 14, au verset 14, verset 20, et aussi en Ézéchiel, chapitre 28 et verset 3. Au chapitre 4 d'ailleurs de Daniel, du livre de Daniel, Daniel manquait aussi à l'appel de la première convocation des sages. Et on pense qu'il était un peu éloigné géographiquement, et parce qu'il est dit au verset 8 du chapitre 4, « En dernier lieu se présenta devant moi Daniel. » Et là au chapitre 5, Daniel doit être cherché spécifiquement. Il n'était pas là, pourtant on nous a dit que le roi réunit ses grands, toutes les grandes personnes de ce royaume, toutes les personnes importantes, et Daniel, qui occupait un poste important, n'était pas là. Tout ça pour dire qu'il avait été mis de côté, mis sur la touche, relégué à un rôle secondaire. Et donc, on a dû le chercher. Et c'est la reine qui a rappelé à Belshazzar qu'il y avait quelqu'un qui avait les compétences pour résoudre son énigme. Et donc, voici Daniel introduit devant le roi à partir du verset 13 et qui va donner l'interprétation de l'écriture sur la muraille. Alors, on va au verset 17. Et donc, Daniel répondit « En présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Contrairement aux astrologues, aux chaldéens, aux spécialistes de Babylone, l'interprétation des songes n'est pas pour Daniel un gagne-pain. Ce n'est pas un moyen de s'enrichir, ce n'est pas un moyen d'obtenir les honneurs du roi ou ses faveurs ou les honneurs du monde. Il ne cherche pas des récompenses. Daniel est un homme de Dieu, c'est un homme impartial, il dit la vérité. On ne peut pas l'acheter pour lui faire dire ce qui est agréable. On ne peut pas non plus l'acheter pour lui faire taire ce qui est désagréable. C'est un homme impartial, il va dire la vérité, quoi que cela puisse lui coûter à lui, Daniel. Et nous voici amenés au verset 18, où Daniel va rappeler à Nebuchadnezzar ce qui s'est passé, à Belshazzar, ce qui s'est passé avant. Et on lit quelque chose au verset 18, comme cela, au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Alors chaque fois qu'on voit apparaître Nebuchadnezzar, ton père, Nebuchadnezzar n'était pas le père de Belshazzar. C'est pour dire ton ancêtre, celui qui te précédait. Et donc, au roi, le Dieu suprême, Daniel rappelle à Belshazzar que Dieu est au-dessus de tous les rois. Et que Nebuchadnezzar, qui est un roi éminent, qui a fait de très grandes choses, eh bien, Dieu était au-dessus de lui, et que c'est Dieu qui lui a donné l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Premier rappel, Dieu a donné, Dieu souverainement a donné à Nebuchadnezzar la gloire. Et verset 19, à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais il y a un deuxième épisode qu'on a lu au chapitre 4 et qui est rappelé là, à Belshazzar. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages, on y donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voilà, non seulement Daniel rappelle à Belshazzar que Dieu est souverain, mais il rappelle aussi que Dieu a humilié Nebuchadnezzar parce qu'il était orgueilleux. Il l'a humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême donne le règne des hommes à qui il le donne, à qui il lui plaît. Donc, dans cette partie, il souligne aussi la grâce de Dieu. Dieu pardonne aux orgueilleux qui se repentent. Ce n'était pas le cas de Belshazzar. Et justement, le blâme va arriver maintenant, toujours dans la phase d'explication, le blâme va arriver des versets 22 à 24. Et au verset 22, on peut lire « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu saches toutes ces choses. » Même si beaucoup de choses pouvaient être cachées à la population, Belshazzar savait certainement que Nebuchadnezzar avait été pris d'une sorte de folie et que pendant 7 ans, il a été comme les animaux, arrosé par la pluie, mangeant comme des bêtes. Et il savait certainement que Nebuchadnezzar s'était humilié devant Dieu. Il savait ce que c'était la conversion. Il savait ce que c'était qu'un homme qui a une communication avec l'Éternel. Il avait certainement entendu parler de Daniel, de ses prières. Donc il était au courant de tout cela. Et Daniel lui rappelle, tu sais ces choses. Et tu ne t'es pas humilié, quoi que tu saches toutes ces choses. Et puisqu'il ne s'est pas humilié, verset 23, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Plus loin, il dit, tu as loué les dieux d'argent, d'or, etc. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Ça nous rappelle aussi, frères et sœurs, chers amis, que notre vie est dans la main de Dieu. Notre souffle est dans la main de Dieu. Il nous donne la vie, mais il l'ôte quand il le veut, quand c'est l'heure. Et toutes ces voix aussi sont devant Dieu. Et donc, conclusion, c'est pourquoi il a envoyé, verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Daniel reproche au roi Belshazzar d'avoir ignoré la révélation divine accordée aux Babyloniens. L'Éternel, le Seigneur des armées, a manifesté à Nebuchadnezzar sa souveraineté et sa miséricorde de plusieurs façons, à plusieurs reprises et de façon éclatante. Belshazzar était au courant et pourtant il n'en a pas tenu compte. Au lieu d'honorer Dieu, au lieu de s'humilier devant lui, Belshazzar, au contraire, s'est élevé plus que tous ses prédécesseurs, même ceux qui étaient plus illustres que lui, comme Nebuchadnezzar. Cela nous rappelle, frères et sœurs et chers amis, que l'on peut avoir la connaissance de Dieu, savoir beaucoup de choses de Dieu et ne pas en tenir compte, ne pas honorer Dieu, négliger ces choses. Il peut venir écouter des prédications, voir des chrétiens se convertir, assister à des baptêmes et pourtant dire « Mais non, ça, c'est pour les faibles, ça, c'est pas pour moi. » Plus tard, il y a assez de fous à Barthélemy Durand ou à l'hôpital psychiatrique Vaucluse qui est tout prêt pour que moi je fasse partie de ces gens qui croient en un Messie, quelqu'un qui a été crucifié, qui donnerait soi-disant la vie éternelle. Moi, j'ai pas besoin de ce Dieu-là. Voilà. Et pourtant, ces gens-là ont entendu la parole, ils ont peut-être la Bible, ils écoutent des prédications, mais ça ne change pas leur attitude. Et ils s'endurcissent, comme Belshazzar, au point de louer les dieux d'argent, d'or, d'airain, au point de commettre péché sur péché, continuer à s'endurcir, vivre la vie comme ils l'entendent. Mais sachez, frères et sœurs et chers amis, comme va le dire le verset suivant, verset 26, qu'on peut lire, « Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de verset 26, et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et voici la fin du règne de Babylone. Parce que Dieu n'agit pas tout de suite. Les gens qui continuent dans le péché, qui font fi de toute parole de Dieu, les pécheurs qui s'endurcissent, pense que Dieu n'agira pas du tout. La belle vie va continuer tout le temps. Même dans l'éternité. Et puis quand on va mourir, tout ça va, on va retourner à la poussière. Et puis tout ça est fini. La Bible ne dit pas ça. Il dit qu'après la mort vient le jugement. Et il nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 8. Eh bien, il faut savoir, frères et sœurs, chers amis, que Dieu pèse tout. Il pèse toutes les moqueries, tous nos défis dans sa balance. Il tient une comptabilité de toutes les invitations à venir à Christ que les hommes repoussent, de tous les appels à la repentance que les hommes négligent. Il note tout. On ne pourra pas dire, il ne voit pas, il n'entend pas, comme les dieux d'or, des reins et d'argent qui ne voient pas, qui ne comptent pas, qui n'entendent pas, et qui n'ont pas dans leurs mains la vie des hommes, ni leur voix. Et on voit, frères et sœurs, que Daniel disant ça, compter, peser, diviser, ce n'est pas des paroles en l'air. Parce que la troisième partie de notre méditation, qui est le fait que la parole de Dieu s'accomplit, l'écriture sur la muraille s'accomplit, il nous dit, aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Et au verset 30, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Cette muraille qui, aux yeux des hommes, qui, aux yeux du co-régent, semblait imprenable, eh bien, était prise, mais d'une façon tellement inimaginable. En fait, l'Euphrate traverse la ville, ils ont détourné le cours d'eau et le fleuve a été mis à sec. Et les armées perses ont pu entrer dans la ville et prendre cette ville. Qui sait, savons-nous quel jour, à quel moment on doit quitter cette terre pour remettre toujours à demain les choses importantes? Savons-nous quel jour Dieu va dire stop, maintenant tu es allé trop loin. Il y a une ligne à ne pas franchir. Le péché, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais il nous appelle à venir à lui. Il répète les appels à la repentance. Il répète les invitations. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Mais l'homme, comme Pharaon, comme Belshazzar, peut s'endurcir et dire, mais Dieu, j'ai pas besoin. Il n'y a personne, ni maître, ni Dieu. Je vis ma vie comme je veux. Et tout ira bien. Eh bien non. La parole nous montre à mes endroits que Dieu punit aussi l'orgueil. Et on peut regarder dans Luc, chapitre 12. On va regarder deux références pour terminer. Luc, chapitre 12. C'est le cas d'un homme qui était fier de ses richesses. Luc chapitre 12, on commencera au verset 15, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et on peut lire cette dernière référence, Ésaïe 55. C'est l'invitation que Dieu lance à tous les hommes. Ésaïe 55. Versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie
et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Voilà, le Seigneur nous invite à ne pas être orgueilleux, mais à venir à lui. Il est au-dessus de nous, le péché met un obstacle entre lui et nous, mais il a offert gratuitement son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors cette invitation, il la lance à chaque homme, parce que tout homme né d'une femme est pécheur par nature, mais Dieu dans sa grâce veut nous pardonner, faire de nous ses enfants. Belshazzar a négligé ces choses qu'il connaissait bien. Nebuchadnezzar, par contre, a reconnu que Dieu donne le pouvoir, la richesse, mais s'est humilié aussi devant Dieu, a reconnu que Dieu est plus grand que tous les rois. Que cette parole de Dieu soit dans nos cœurs et qu'elle nous pousse à faire le bon choix.